La rencontre spirituelle aujourd'hui, la vie étonnante, étrange d'un jeune homme de Florence qui a vécu au 15e siècle, il y a bien longtemps, il y a 500 ans, mais ça s'applique tout à fait à toute une jeunesse d'aujourd'hui. Il est le bienheureux Thomas de Florence, un franciscain, c'est un enfant prodigue. C'est un enfant qui est allé au plus bas du péché, de la vie désordonnée à Florence. C'est un grand converti, jeune, qui est devenu un grand saint. C'est absolument étonnant. Malheureusement, il est peu connu, le bienheureux Thomas de Florence. En fait, c'est un ex-prostitué mâle, assez étrange, du nom de Thomas Bellaccio. Il est né à Lunari, près de Florence. C'était le moment du grand mouvement, vous savez, de réforme des franciscains. On les appelait les franciscains de l'observance ou les frères mineurs de l'observance. Ça se répandait dans toute l'Italie. Et c'est ce qui l'a sauvé finalement. Il est élevé d'abord très chrétiennement par sa mère, mais Thomas, devenu adolescent, se laisse aller à une vie complètement désordonnée. C'est incroyable. Il avait une nature ardente, une nature audacieuse. Puis il est entraîné par un seigneur florentin qui est très riche, qui a tout ce qu'il faut pour séduire un jeune homme. Il a évidemment des fêtes, il peut amener ce jeune homme, célébrer un peu partout. Et puis ce pauvre Thomas Bellaccio là devient s'abandonne quoi à la faiblesse de facilité. Et puis très vite il se fait de mauvais amis dans ce monde-là qui se moque de la religion, qui se moque des principes de base, qui ne prie plus, mais qui sont baptisés quand même et qui ont reçu une formation catholique et qui sont habités pour la grande majorité de certains regrets. Et là, Thomas Bellaccio touche les bas-fonds du vice à Florence. À tel point même que des jeunes gens de son âge le fuient. Ils veulent pas être vus avec lui finalement. Tellement sa conduite est immorale et probablement aussi sa façon de se vêtir. Et probablement original, insensé. Et les jeunes gens auraient honte d'être vus en sa compagnie. Ça va jusqu'à un certain point que il est traduit en justice à un moment donné. Il a un procès contre lui. Et puis, il s'aperçoit que le Seigneur qui s'occupait de lui ne veut même pas l'aider. D'ailleurs, ce seigneur, qui est son protecteur dans un sens, s'était mis à l'abandonner petit à petit, puis il lui avait dit, en une occasion, « Si tu désires me voir, Thomas, viens chez moi, mais durant la nuit, car de jour, je serai plutôt gêné d'être vu avec toi. » Et on peut dire que c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte du malheur dans lequel il s'était plongé. Comme tant de jeunes aujourd'hui qui se plongent dans la drogue, le sexe, la facilité, les idioties, et qui sont malheureux, malheureux au suprême degré. J'ai fait cette émission en pensant à tous les parents qui sont plus ou moins désespérés de la conduite de leurs jeunes garçons ou de leurs jeunes filles. Ils les ont peu traités, ils les ont mis dans des endroits dans l'espoir que des psychologues et des gens les aident. Ils ont prié, prié, mais on dirait que rien n'arrive. Eh bien, ça arrive, parce que Dieu se servit de la parole de ce Seigneur à Thomas Bellaccio, ou Thomas de Florence, le bienheureux Thomas de Florence, il va devenir le bienheureux Thomas de Florence. Dieu se sert de cette parole, qui le condamne au fond, pour lui ouvrir les yeux, et pour toucher son cœur. Et là, il comprend la fragilité des amitiés ridicules. Et puis, c'est que seul le sexe, c'est le lien de ses amitiés. Or, il n'y a pas de lien dans le sexe. C'est la facilité et la bêtise. Il est profondément dégoûté de sa vie misérable. Il commence à souhaiter évidemment des jours plus calmes. Il décide là de quitter sa vie de grand désordre. Et là, il va faire pénitence. Et son repentir est sincère. Il prouve aux gens autour de lui que c'est vraiment sincère, son amendement, son changement de vie. Et puis, il décide de tellement changer de vie qu'il se rend, vous savez, à Fiesole, en haut de la colline, là, près de Florence. Il y a des franciscains, là. Et puis, il demande à faire partie des franciscains. Et chose étrange, il est admis. Il est admis. C'est le bienheureux Jean ou Giovanni de Sconcone, qui est alors le gardien, qui le comprend. Et qui l'admet après quelques hésitations, parce que c'est un étrange postulant. Mais le bienheureux Giovanni de Sconcone n'a pas eu à s'en repentir. Il faut dire qu'il avait rencontré auparavant le directeur de la Société Saint-Jérôme à Florence, qui l'a ramené peu à peu à une vie chrétienne. Et c'est comme ça qu'il était allé voir les frères mineurs ou les franciscains de l'observance qui se répandaient dans l'Italie à ce moment-là. Et puis, il a rencontré un autre bienheureux, c'est le bienheureux Paul de Trinci, qui était alors commissaire général. Et c'est en 1348 que Thomas Bellaccio fait ses premiers pas dans la vie franciscaine au petit ermitage de Fiesole, comme je vous ai dit, c'est très beau en haut de la colline, là près de Florence. Et puis Giovanni de Stroncone, le frère Giovanni de Stroncone, il s'en occupe. Mais quand il pense à sa vie de prostituée de luxe, il s'en veut. Et les souvenirs de sa vie passée, bien, déterminent Thomas Bellaccio, devenu Thomas de Florence. On prend des noms de la ville d'origine d'où l'on vient, hein, chez les Capucins, les Franciscains souvent, autrefois. Alors, ça le détermine à se jeter dans une vie de pénitence extraordinaire. C'est la coutume de l'époque. Et ça devrait peut-être, jusqu'à un certain point, être quelque chose qu'on devrait faire aujourd'hui. Ces austérités deviennent effrayantes. Il faut avouer que c'est un autre temps. Il est avide d'expier ses fautes de jeunesse. Alors, il se veut pauvre dans son vêtement de jeune postulant franciscain. Il est tardant même à se mépriser lui-même, tellement il s'en veut. Et pour purifier sa conscience, bien, il se transforme en vrai franciscain, en vrai frère mineur, en vrai jeune homme qui suit Saint François d'Assise. Et la grâce de Dieu le soutient, et bientôt cet enfant prodigue, eh bien, Dieu l'élève à une très haute contemplation. Il faut dire que le soir, après quelques heures à peine de sommeil, frère Thomas de Florence se rend à la chapelle. Plusieurs heures avant les matines. Les matines, ce sont les chants que je l'explique pour ceux qui l'ignorent, les jeunes qui m'écoutent. Vous savez, il y a des jeunes de 11, 12 ans, de 15 ans qui m'écoutent. Bien, on appelle ça des matines. Ce sont un office de nuit. Ça se célèbre à la noirceur, à l'époque, avec de toutes petites lampes que les moines apportaient, pour pouvoir lire dans leurs gros livres manuscrits, c'était tout écrit à la main, il n'y avait pas d'imprimerie dans ce temps-là, des gros livres qui servaient à 5 moines à la fois, tellement c'était gros. Alors celui du milieu, là, du centre, tournait les pages, puis il récitait ça dans la nuit. Mais il se rendait à la chapelle plusieurs heures avant les matines, qui avaient lieu en général vers 2 heures du matin, des fois 1 heure. Et il y demeurait jusqu'au lever du jour, où se célèbre l'office de l'aude. L'aude, ça veut dire des louanges. C'est un bel office, l'office de l'aude. Et c'est surtout dans la campagne, lui, puis dans les bois qu'il aimait à se retirer, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui hein, qui aiment aller prier dans la campagne, dans les bois, dans les forêts, dans les montagnes. Et ses supérieurs, bien, ils le comprennent, ce sont des vrais franciscains, ils comprennent son goût pour la solitude. Puis frère Thomas passe parfois 3 ou 4 jours seul avec Dieu. Parfois on l'aperçoit, comme Saint Joseph de Cupertino, dont je vous ai déjà parlé. Saint Joseph de Cupertino, vous savez, il levait dans les airs, il levait jusqu'à la hauteur des arbres. Vous direz que ça n'a pas de sens. Il y a tellement de témoins de ce phénomène de Joseph de Cupertino qu'il est difficile de nier ces miracles-là, comme ceux qui se sont appliqués dans le même sens à Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, les réformateurs du Carmel, les femmes, les hommes, les carmélites et les carmes, et qui, assis, se parlaient et tout à coup levaient dans les airs devant les témoins. Vous direz que ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, vous savez. Alors lui, bien, frère Thomas, on le voyait, comme Joseph de Cupertino, élevé jusqu'au sommet des grands arbres de la forêt. Et même souvent, les religieux du couvent le voient la nuit environné d'une lumière éclatante. Le changement de sa vie a été tellement total qu'il est parvenu à une intimité avec Dieu assez rapidement, lui qui était parti des bas-fonds de Florence. Comme les jeunes là dont s'occupe ce merveilleux Father John à Montréal ici, avec sa camionnette, où ils aident ces jeunes qui vivent au fond dans un immense désespoir, hein. Et devant les preuves si évidentes de sainteté extraordinaire de frère Thomas, mais le commissaire général des franciscains observants, italien, lui confie la charge de maître des novices, imaginez. C'est lui qui va former les futurs franciscains déjà. Et frère Thomas s'acquitte merveilleusement de cette responsabilité très très difficile, hein. Il est lui-même un exemple vivant pour les postulants. Il entraîne les novices. Et sa renommée s'étend à tel point que de nombreux franciscains conventuels qui sont pas passés encore à la réforme de l'observance, ben, se mettent à l'école du bienheureux Thomas de Florence et puis transforment leur vie et deviennent vraiment des observants et des franciscains à la fois strict et rempli d'une vie intérieure profonde et d'un esprit de prière qui transforme les régions où ils habitent. Et Thomas de Florence, vers 1414, bien, le bienheureux là, Jean de Stroncone le demande, parce qu'il se rend, lui, Jean de Stroncone, dans le royaume de Naples, au sud de l'Italie, pour y implanter l'observance, puis il choisit comme compagnon plusieurs franciscains, dont frère Thomas, à qui il confie même le soin de diriger toute une province en Calabre, tout à fait dans la pointe en bas, dans le sud de l'Italie. Nous revenons donc au frère Thomas de Florence, le bienheureux Thomas de Florence, qui est rendu en Calabre, il s'occupe durant plusieurs années à fonder des couvents réformés. Et les miracles qu'il opère confirment son œuvre. Ça intensifie, ça agrandit sa réputation de sainteté. Et 6 ans plus tard, frère Thomas est de retour en Toscane, donc dans la région d'Assise, de Fiesole, pour travailler à une œuvre très très délicate. C'est la répression des hérétiques, les fraticelles. Les fraticelles, ce sont des franciscains qui ont voulu opérer des réformes très strictes, qui avaient obtenu d'ailleurs d'un pape Célestin V, c'est le seul pape qui a démissionné, je crois, dans l'histoire, ça. Célestin V, et ils avaient obtenu de vivre comme dans des ermitages. Ils en étaient devenus d'ailleurs arrivés, une partie d'entre eux, à des hérésies. Ça a été supprimé finalement par le pape Pie IV, je crois. Et les fraticelles s'étaient développées, surtout grâce, évidemment, dans cette époque, hein, au grand désordre qui avait été provoqué par ce qu'on appelle le grand schisme. Le grand schisme, c'est... Vous savez, il y avait un pape en France, un pape à Rome, puis souvent même un pape en Espagne, et il y avait trois papes à la fois, ou deux papes, c'était terrible. Et sur la demande du pape Martin V, frère Thomas commence à parcourir les régions de Sienne et de Piombino pour chasser les hérétiques. Il fonde encore plusieurs nouveaux couvents. Puis au bout de 7 années d'efforts, il est parvenu à éliminer les fraticelles, ou les fraticelli, de cette partie de l'Italie. Fraticelle, ça veut dire les petits-petits frères. Et frère Thomas de Florence est nommé par le pape Martin V commissaire provincial, donc des nouveaux couvents qu'il a fondés. Imaginez, il est devenu un grand fondateur de couvents, lui, qui était au tréfonds du tréfonds de la vie imbécile à Florence. Il érige un noviciat au couvent de Scarlino. Scarlino, ça va devenir son endroit qu'il va beaucoup aimer. Il a fait de Scarlino, d'ailleurs, sa résidence habituelle. Il y reçoit une quantité fantastique de postulants. Il attire vers lui toutes sortes de gens qui veulent se faire franciscains, dont le bienheureux Ladislas, qui est un descendant des rois de Hongrie, et aussi le bienheureux Polydore, qui était d'une grande famille de Rome, les Patrizi. Et dans sa solitude, donc, de Scarlino, le frère Thomas établit une coutume, un usage, qui s'est maintenu très longtemps après sa mort. C'est très, très étrange. Chaque nuit, après les matines, les religieux allaient en procession en récitant les psaumes de la pénitence dans le bois voisin. Puis, au rond-point, là, chacun gagnait son oratoire de branchage. Et une nuit, je vous raconte ça, c'est comme dans la vie des premiers disciples de Saint François. Hein? Une nuit durant l'office, un loup est arrivé devant l'église et s'est mis à hurler. Et d'autres loups se sont joints à lui. Puis le chant des matines en était troublé. Alors le bienheureux Thomas de Florence sort et s'adresse à l'animal et lui dit « Tais-toi, loup, je t'en prie, tais-toi. » Et n'empêche pas les louanges divines. Tu es venu beaucoup trop tôt. Et le loup lui obéit tout de suite. La procession est à peine sortie de l'église que l'on voit apparaître tout à coup autant de loups qu'il y a de moines franciscains. Puis les loups se joignent à eux, et quand les frères mineurs, les franciscains, se séparent pour se rendre dans leurs ermitages, chacun est accompagné par un loup qui se couche à ses pieds, qui reste près de lui et qui ne le quitte qu'au lever du jour, quoi. Et après avoir reçu sa bénédiction, d'ailleurs, demande la bénédiction du moine. Par la suite, ce prodige recommence chaque nuit et continue bien après la mort de frère Thomas de Florence. Mais cependant, on raconte qu'une nuit d'hiver, les moines, les religieux franciscains, ont omis la procession habituelle, puis les loups ne sont plus jamais revenus. Curieuse histoire. J'aime bien ces histoires qui datent de cette époque. C'est peut-être possible que ce soit vrai, qui sait? Qui sait, là? De cette solitude de Scarlino, frère Thomas de Florence continue à recevoir des grâces extraordinaires et à prouver le pouvoir de Dieu extraordinaire aussi sur les animaux et la nature, pouvoir qu'il a transmis, évidemment, à frère Thomas. Et sa renommée à frère Thomas se propage jusqu'en Corse. Et là, les Corses le supplient de venir fonder des couvents de l'observance. Et il s'y rend, puis il séjourne 1 an. Il fait plusieurs fondations. Puis, il est obligé d'obéir au bienheureux Antoine de Tronconi, continue son œuvre, lui. En 1439, le pape Eugène IV envoie le frère Albert de Sartiano à titre de légat en Orient. Et c'était toute une tâche, ça. Il s'adjoint plusieurs compagnons, dont le frère Thomas de Florence. Et là, les voyageurs se rendent à l'île de Rhodes, où ils s'embarquent pour Jérusalem, puis ils parviennent au Caire, en Égypte, pays musulman. Les musulmans ont envahi cette région au 7e siècle, et qui était une région catholique ou chrétienne, les Coptes. Et là, le sultan musulman au Caire leur réserve un excellent accueil. Vous savez que Saint François est allé voir ainsi les grands chefs musulmans. Et là, les moines, sous la direction de d'Albert de Sartiano, le légat spécial du pape, mais ils parcourent l'Égypte, la Palestine, la Syrie. Mais ils ont défense de pénétrer en Éthiopie. Alors le frère Albert de Sartiano arrive jusqu'en Perse, c'est-à-dire en Iran aujourd'hui, avec l'intention de se diriger justement sur l'Éthiopie et même les Indes, mais il tombe malade. Il doit donc rentrer en Italie, puis où il met le concile de Florence au courant des résultats de son voyage, puis il laisse le frère Thomas de Florence continuer sa mission. Frère Thomas et ses quatre compagnons continuent leur marche sur l'Éthiopie. C'est incroyable, c'est immense, c'est des distances énormes. Puis à deux reprises, bien, ces franciscains-là sont faits prisonniers des Sarrasins, c'est-à-dire des musulmans. Ils sont jetés au fer, hein, on les enchaîne. Ils doivent leur liberté finalement à de riches marchands de Florence qui paient la rançon. Peut-être y a-t-il parmi eux ce fameux seigneur terrible qui s'était converti, qui sait. Et là, ils parviennent presque au terme de leur voyage quand, une troisième fois, ils sont encore capturés par les musulmans. Alors on veut les faire apostasier leur foi catholique. Et tout est mis en œuvre pour arriver à les faire apostasier, les faire renier le Christ. Rien n'y fait. Les franciscains demeurent inébranlables. On les bat, on les fouette. On les tient enfermés dans une citerne abandonnée où durant 20 jours, ils n'ont presque rien à manger. Et leur héroïsme finit quand même par toucher le cœur des tortionnaires musulmans, qui sont quand même des croyants, qui croient en Dieu, qui ont du cœur malgré qu'ils soient des tortionnaires et terribles. Ça semble contradictoire. Mais tout être humain, même les pires, il y a toujours du bien au fond d'eux. Et les confesseurs donc de la foi, ces franciscains-là, sont conduits dans une prison de la ville. Les frères Thomas de Florence obtient l'autorisation d'aller trouver de la nourriture. Il en profite, imaginez, pour prêcher le Christ ressuscité à la porte des mosquées. Il fait ça au péril de sa vie. Ça se fait pas en pays musulman. Eux peuvent prêcher tout ce qu'ils veulent ici, mais nous, on peut pas prêcher n'importe quoi chez eux, c'est sûr, ça, on le sait. Et les mauvais traitements ne lui sont évidemment pas épargnés, puisqu'un jour, il revient à la prison tout meurtri, ce qui ne l'empêche pas d'être d'ailleurs parfaitement en forme le lendemain. Et les jours suivants, ben, les prisonniers apprennent qu'ils sont tous condamnés à mort. Mais cependant, de Rome, le pape Eugène IV et le frère Albert de Sartiano ne les oublie pas, et le pape envoie le prix de leur rançon, puis à leur grand désappointement, ben, les prisonniers franciscains sont mis en liberté, puis reprennent le chemin de leur pays, ils sont découragés. Et là, la curie romaine leur fait toute une fête. Et le frère Thomas de Florence ne désire qu'une chose, retrouver la solitude de Scarlino. Il veut prier en paix et s'occuper des novices, des postulants, des jeunes. Et il ne fait qu'y passer à Scarlino finalement, puisqu'on le retrouve à Aquila où il est envoyé. Il vient vénérer là le tombeau de Saint Bernardin de Sienne. Et on verra tout à l'heure ce qui va arriver quand il va rencontrer Saint Jean de Capistran, comment il va mourir et ce qui va suivre sa mort. C'est l'histoire donc d'un enfant prodigue extraordinaire qui est le bienheureux Thomas de Florence. Vous savez que il se promenait nu-pieds, mais il n'aimait pas porter de sandales ou de chaussures. On dit que durant son temps libre, il le passait presque toujours à l'église en prière. S'il aimait évidemment les pénitences, il aimait surtout la prière. il aimait Dieu. Et vers 1445, donc à peine 2 ans avant sa mort, il se rend auprès de Saint Jean de Capistran, vicaire général des franciscains observants d'Italie. Et il est envoyé dans les Abruzzes, au couvent de Montepiano. Et là, le frère Thomas de Florence y passe les 2 dernières années de sa vie dans la prière et la pénitence. On raconte que Saint Jean de Capistran aurait fait une chose assez étrange. Il aurait ordonné un jour à frère Thomas de prendre dans sa main des charbons ardents pour vérifier son esprit d'obéissance. Évidemment, on est au 15e siècle. Et puis, Thomas de Florence ne se serait absolument pas brûlé les mains. C'est ce qu'on raconte. Alors, frère Thomas, mais dans la prière et la pénitence, à Montepiano, mais il demeure quand même inconsolable de n'avoir pas été trouvé digne d'être martyr, de verser son sang pour le Christ qu'il aime par-dessus tout. Et il reprend le chemin de Rome pour solliciter du pape l'autorisation de retourner en Égypte chez les musulmans, mais il ne dépasse pas Rieti. Et là, il est pris de fièvre. Il lui faut s'aliter. Et le 31 octobre 1447, il rend son âme à Dieu comme un saint, un grand saint. Il y a donc 550 ans. Son culte a été approuvé par le pape Clément XIV au XVIIIe siècle. Ce pape qui a régné de 1769 à 1774, donc c'est à cette époque qu'on s'est mis à pouvoir invoquer officiellement le bienheureux Thomas de Florence pour qu'il s'occupe en particulier de nos enfants en difficulté, pour qu'il s'occupe de ces pauvres jeunes comme le père John à Montréal et tant d'autres à travers le monde et qui s'occupent de tous ces jeunes que notre civilisation matérialiste et insensée jette dans le malheur. Dieu a récompensé la fidélité, le courage de Thomas de Florence par le don des miracles et en a fait d'extraordinaires durant sa vie, en a fait de plus nombreux encore, dit-on, après sa mort. Et même qu'on raconte que les prodiges qui attirent les foules à un moment donné à son tombeau sont tels que Saint Jean de Capistran, qui est, on peut dire, qui dirige tous les franciscains d'Italie, craint que la canonisation de Saint Bernardin de Sienne, qui est alors en instance à Rome, n'en soit retardée. Alors il prie le bienheureux Thomas, qui est décédé, là, de mettre un terme à tous ces miracles qui s'opèrent à sa tombe. Et le bienheureux Thomas de Florence obéit, même du haut du ciel, il obéit comme de son vivant, et pendant 4 ans, aucun miracle ne s'est produit. Mais ça a commencé après. Par cette obéissance d'outre-tombe, on pourrait dire, il permet la canonisation de Saint Bernardin de Sienne. Puis, on finit par l'oublier, puis sa propre béatification était ajournée de plusieurs siècles, près de 400 ans. Voilà pour la vie de ce saint merveilleux. Ce saint qui a transformé sa vie complètement, comme l'enfant prodigue de l'Évangile. Vous connaissez cet évangile de Saint-Luc au chapitre 15. Je prends la traduction qu'en a fait l'un de nos confrères de Radio Ville-Marie, le père Georges Convert, qui appartient à la communauté Saint-Pierre et Paul. Son livre est intitulé « Jésus et son message selon Luc », publié aux éditions Saint-Paul. Je vous lis le texte en page 146. Tous les publicains et les pécheurs s'approchent de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes murmurent contre lui. Ils disent, « Bah, celui-là fait bon accueil aux pécheurs, puis il mange avec eux. » Et alors Jésus leur dit cette parabole. C'est à mon sens, vous savez, la parabole qui révèle le plus l'amour total de Dieu notre Père pour nous qui sommes des pécheurs. un amour absolument fantastique. Jésus commence ainsi sa parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune des deux dit au père, « Père, Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fait le partage de son bien. Tellement il est bon, il le fait quand même. Et peu après, le jeune rassemble tout, puis il part pour un pays lointain, puis là, il gaspille son héritage en vivant follement, comme Thomas de Florence, Thomas Bellaccio, à Florence. Et alors, quand il a tout dépensé, cet enfant prodigue de l'Évangile, voici qu'une forte famine survient dans le pays, puis il commence à être dans le besoin. Il va se louer à un citoyen du pays, qu'il l'envoie dans ses champs garder des cochons. Le texte ne dit pas s'il s'est prostitué auprès de cet homme. Qui sait? Jésus n'en parle pas. Alors l'enfant, le fils, voudrait se remplir le ventre des fruits du caroubier, ces fruits que les cochons mangent, mais personne ne lui en donne. Il fait un retour sur lui-même et se dit, « Tant de salariés de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, j'ai faim et je suis perdu. » Et Jésus continue ce très beau récit en mettant dans la bouche de cet enfant cette parole merveilleuse, « je me lèverai, et j'irai vers mon Père. Je me lèverai, et j'irai vers mon Père. » C'est ce qu'on fait quand on va se confesser. « Et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes salariés. » Il se lève et va vers son père, ajoute Jésus. Et alors qu'il est encore très loin, son père l'aperçoit. N'oublie pas ça. Encore qu'il est encore très loin, son père l'aperçoit. Comment ça se fait, ça? C'est que ce pauvre père, qui est fou d'amour pour son fils disparu, va jusqu'au bout de la route, là, en haut de la montagne. Tout le monde rit de lui. Pauvre vieux père un peu fou, qui a pas de dignité, et qui cherche dans la vallée si son fils va revenir. Tout le monde se moque de lui. Mais le père est un père fou d'amour. Et Jésus dit, il est remué jusqu'aux entrailles. Quand on se convertit, on remue les entrailles de Dieu, notre Père. Qu'est-ce que fait le père? C'est bouleversant. Il court se jeter au cou de son fils et l'embrasse longuement. Le fils n'a même pas demandé pardon encore. C'est incroyable. C'est incroyable d'amour. Ça bouleversait les Juifs au temps où Jésus racontait ça. Et ça peut nous bouleverser encore si on lit le texte avec beaucoup d'attention. Et Jésus continue en disant, le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez un vêtement le plus beau, habillez-le. Mettez une bague à son doigt et des sandales à ses pieds. Apportez le veau gras, tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Parce que mon fils que voilà était mort et il revit. Il était perdu et il est retrouvé. » Il commence à faire la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, en approchant de la maison, il entend la musique et les danses. Il appelle un des jeunes et lui demande ce que c'est. Et celui-ci lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, car il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se met en colère. Il ne veut pas rentrer à la maison. Son père sort et se met à le supplier. Il répond à son père, « Comment voilà tant d'années que je te sers? Je n'ai jamais passé à côté d'un seul de tes ordres. À moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis? Et ton fils que voilà, qui a dévoré ton bien avec des prostituées, quand il revient, tu tues le veau gras pour lui. Son père lui dit, « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait faire la fête et se réjouir, parce que ton frère, que voilà, était mort, et il vit. Il était perdu, et il est retrouvé. Cette très belle parabole est un des plus beaux textes de l'histoire de l'humanité. Vous cherchez dans les textes grecs, les textes égyptiens, les textes romains, les textes du Moyen-Âge, les textes classiques, les textes des grands auteurs, Corneille, Racine. Vous chercherez dans Michel Tremblay. Vous ne trouverez rien de la grandeur, de la beauté de ce texte, qui est une des splendeurs de l'humanité. C'est Jésus qui a prononcé ces paroles et qui a raconté cette histoire si belle, qui nous révèle justement combien ce Père, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va jusqu'au bout de la route et qui regarde dans la vallée si son fils revient tellement il l'aime, qui n'attend même pas que son fils lui demande pardon, qui se jette à son cou. Il est remué jusqu'aux entrailles, dit Jésus, il court se jeter à son cou et l'embrasse longuement. C'est très émouvant. C'était la parabole préférée de mon pauvre fils. J'espère que c'est la parabole préférée de vos enfants si vous la leur avez lue. Si vous avez attiré leur attention quand ils étaient jeunes à la messe, quand ils ont 10, 11, 12 ans, faut leur faire lire cette parabole et la leur expliquer et leur faire sentir combien Dieu est bon et les aime et combien le confessionnal est un endroit doux, beau et lumineux. Combien la tendresse du Père s'exerce au creux d'un confessionnal dans cette étrange noirceur. Devant un prêtre, presque tous sont d'excellents confesseurs, vous savez. Les prêtres aujourd'hui ont une grande tendresse au confessionnal et sont tellement bons et compréhensifs de la bonté du Père. Ils savent comprendre et trouver les paroles qu'il faut. L'attitude du frère aîné, c'est une attitude compréhensible aussi. Faut pas lui en vouloir. Il a servi. Il a été bon. On ne l'a jamais fêté. C'est que quand on sert Dieu, il faut jamais attendre au fond une récompense tout de suite. Faut pas attendre ici-bas de grandes choses. Et le Père Convert écrit, est-ce que ce Père est mou et injuste? Ça peut être notre jugement devant cette histoire. Parce que le fils paresseux, dit le Père Convert, fils paresseux et lâche, n'a pas d'amour propre, c'est le ventre qui le guide davantage que le cœur. Il quitte la famille avec un héritage pour lequel il n'a jamais travaillé, puis il revient au bercail quand la faim le tenaille. Et le fils aîné a bien raison d'être choqué. Son frère pourrait au moins montrer un peu de regret, un peu de repentir, mais son père devrait avoir le courage, il me semble peut-être, de lui donner une leçon. Et pourtant, Jésus nous affirme que Dieu agit bien comme ce père mou et injuste. Et la raison? Le Père Convert dit, ce Dieu Père a le cœur d'une mère, un cœur de miséricorde. Et la miséricorde, c'est avoir un cœur sensible à la misère et à la souffrance. C'est avoir un cœur de compassion et de sympathie. Compatir, dit le Père Convert, c'est souffrir avec celui qui souffre. Jésus nous dit que Dieu souffre de notre péché, car le péché, c'est le refus d'aimer. C'est aujourd'hui la fête du bienheureux Thomas de Florence, et je vous ai lu, en rapport avec sa vie, la parabole de l'enfant prodigue telle qu'elle est dans le livre du Père Georges Convert, Jésus et son message selon Saint-Luc, et je vous ai lu une partie de son commentaire. C'est très beau. Mais j'ai devant moi un livre qui vient des éditions Médiapol, les Pères de Saint-Paul, les Frères et les Sœurs de Saint-Paul à Montréal. C'est un livre d'un prêtre italien, Pierino Gelmini, qui s'intitule « De la drogue à la vie ». Il a fondé la communauté Rencontre qui s'est répandue à travers le monde. C'est tout récent, ce livre. C'est publié en 96, l'an dernier. Et il dit au début de son livre, et ça se rapporte beaucoup à tous ces jeunes dont s'occupe le père John à Montréal, Father John, c'est à toi, homme ou femme de cœur, que j'adresse ces pages, dit l'auteur, le père Gelmini. À toi que notre lot quotidien de nouvelles dramatiques afflige et désespère. À toi qui reste accablé par le déferlement de ces multiples manifestations du mal, je voudrais proposer quelque chose de simple et de beau. Il ne s'agit pas d'une information, or trop de journalistes veillent à cela, mais simplement de quelques réflexions sur la désespérance de chaque jour. Je n'ai pas le droit de les garder pour moi. Elles sont aussi à toi. Elles t'appartiennent comme le soleil et les saisons. Nous nous sommes occupés de toi. Aujourd'hui, nous te lançons un appel. T'es-tu jamais demandé dans quel univers vit l'homme que tu salues sans même le voir? As-tu jamais pensé à la tristesse que chaque soir tu laisses derrière toi? À la soif d'amour, de compréhension, de vie qui court par les rues que tu empruntes dans ta ville? Écoute, écoute avec ton cœur et l'oreille de cet autre toi-même, de cet être que tu voudrais être, et que bien souvent tu n'es pas. Et c'est là où sont tes limites, là où tu arrêtes ton pas d'homme insatisfait, que commence l'aventure. Le désespéré qui parle à ton cœur connaît toutes les institutions prodiguées par la société, mais il cherche encore l'homme, il cherche encore l'amour. C'est que nos prostituées, nos drogués, nos avides de toutes choses pour se flamber quasiment la cervelle à petit feu, cherche l'amour, ils n'ont pas trouvé l'amour que Dieu leur porte. Et ce livre de Pierino Gelmini, ce prêtre, s'est intitulé « De la drogue à la vie, la communauté rencontre » aux éditions Médiapol. C'est bouleversant à lire parce que c'est là le témoignage que tous ces enfants prodigues peuvent être sauvés. Oui, ils peuvent être sauvés et de leur folle prodigalité être arrachés pour qu'ils en arrivent à penser, à prier, à se tourner vers Dieu. Mais il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Il faut qu'ils entreprennent une démarche créatrice.